Mise au point. Le magazine des politiques publiques.
Bonjour à toutes et à tous. Il n'y a pas de crime et délit sans intention de le commettre. Il est sans doute important de ne pas commettre soi-même un délit, mais est-ce suffisant? Peut-on être inquiété des turpitudes commises par autrui? Que risque le chef qui ordonne la commission d'un délit? Est-on exonéré de toute responsabilité parce que l'on n'a fait qu'obéir à un ordre? Peut-on utiliser un bien public qu'on sait voler? Simon Cahour nous dit tout ce qu'il faut savoir. Écoutons-le si vous voulez bien.
À côté des atteintes à la probité, existent des délits autonomes que sont le recel et le blanchiment des différentes infractions d'atteinte à la probité. Ils peuvent être commis par toute personne. Ainsi, si vous êtes une entreprise privée, vous ne pouvez pas commettre le délit de favoritisme, qui, comme vous le savez, ne concerne que des personnes exerçant une fonction publique. Néanmoins, par exemple, en bénéficiant sciemment d'un acte de favoritisme, l'entreprise privée peut être poursuivie pour recel ou blanchiment de favoritisme. La complicité est quant à elle un mode de commission de l'infraction. Revenons sur chacune de ces notions. La complicité au sens du droit pénal n'est pas très éloignée de son sens courant. C'est une forme de participation à l'acte lui-même. Le complice n'est pas l'auteur principal, mais il facilite la préparation ou la commission de l'acte délictueux ou donne des instructions pour le commettre. La complicité implique la réunion de quatre éléments. Premièrement, il faut un délit principal, donc dans les cas qui nous occupent, un délit d'atteinte à la probité. En effet, on ne peut pas être complice de ce qui n'existe pas. On ne peut être complice que d'un fait principal punissable. Deuxièmement, la complicité suppose que la personne a connaissance ou conscience du fait principal punissable. Cela suffit pour caractériser sa volonté de participer ou de réaliser l'acte de complicité. Troisièmement, la complicité est matériellement constituée par une aide ou assistance qui facilite la préparation ou la consommation d'un délit principal, un acte d'instigation, c'est-à-dire un don, une promesse, une menace, un ordre, un abus d'autorité ou de pouvoir qui provoque l'infraction, ou des instructions qui permettent de la commettre. Enfin, quatrièmement, l'acte de complicité doit être en principe un acte positif. Le fait de s'abstenir, de laisser faire, de ne pas rapporter des faits délictueux n'est pas en soi un acte de complicité. Par exemple, dans une commune, le maire souhaite favoriser l'entreprise locale. Son directeur de cabinet fait communiquer des informations privilégiées à cette entreprise par un agent. Cet agent commet le délit de favoritisme en communiquant des informations privilégiées à un candidat. Le directeur de cabinet et le maire pourront être poursuivis quant à eux pour complicité de favoritisme pour avoir donné les instructions de le faire. De même, l'intermédiaire qui remet l'argent du corrupteur au corrompu sera considéré comme un complice par aide ou assistance. Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit. Par exemple, le conjoint sur le compte duquel un agent public verse des fonds publics détournés sera poursuivi pour recel. En effet, il détient sur son compte de l'argent provenant d'un délit, le détournement de fonds publics, et dont il connaissait l'origine frauduleuse puisqu'il sait bien que l'argent ne lui appartient pas. Trois éléments sont nécessaires pour caractériser le recel. Premièrement, l'existence en amont d'une infraction, par exemple un détournement de fonds publics. Deuxièmement, le fait de soit dissimuler, détenir ou transmettre une chose provenant d'un crime ou d'un délit, soit faire office d'intermédiaire afin de transmettre la chose, soit bénéficier par tout moyen du produit d'un crime ou d'un délit. Le recel permet ainsi d'incriminer tous ceux ayant eu entre leurs mains, à un moment ou à un autre, le produit d'un crime ou d'un délit. Enfin, troisièmement, le recel suppose que l'on ait la volonté et la conscience d'utiliser indûment des fonds ou des biens résultant d'une atteinte à la probité. Le blanchiment est le fait de masquer, de camoufler ou de dissimuler l'origine délictuelle du produit d'une infraction. Ici également, le sens pénal du terme blanchiment n'est pas très éloigné du sens propre. On blanchit un mur pour recouvrir des graffitis, on blanchit un mot avec un effaceur pour faire disparaître une faute. Après une telle action, on perd l'information permettant de qualifier de délictueux le produit d'une infraction. Celui-ci est d'une certaine manière, et pour parler par analogie, blanchi. Ici également, pour que l'acte de blanchiment soit constitué, il faut la réunion de trois éléments. Premièrement, il faut le produit d'un crime ou d'un délit. On ne peut pas blanchir ce qui n'existe pas. Ce produit peut être de toutes sortes, des biens matériels ou immatériels, des fonds numéraires ou dématérialisés, etc. Deuxièmement, il faut un concours apporté à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion portant sur ce produit. Enfin, troisièmement, l'intention se manifeste par la connaissance que l'on participe à une opération de camouflage d'un bien ou de fonds d'origine criminelle ou délictuelle. Par exemple, dans notre exemple précédent de fonds publics détournés sur le compte du conjoint de l'agent public, le fait pour ce conjoint d'utiliser cet argent pour acheter une voiture ou partir en voyage matérialisera l'infraction de blanchiment de détournement de fonds publics.
Mise au point. Le magazine des politiques publiques.